comme on cueille la providence, refusant de penser.
106.3 fréquence Paris pluriel, il est 15h05, vous êtes à l'écoute de l'émission Arc-en-Ciel, la voix des jeunes originaires de Turquie, et nous allons passer tout de suite à notre sujet du jour, donc sur la turcophilie. Nous avons bien sûr d'autres invités sur notre plateau, mais nous commençons par Aurélien de AT Turc qui n'a pas pu être parmi nous, on va l'écouter.
Notre émission sur la turcophilie et nous avons notre premier invité Aurélien qui est avec nous. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter brièvement?
Bien brièvement, je m'appelle Aurélien Roulant, j'ai 32 ans et je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un turcophile.
Pourquoi? C'est quoi ta définition de la turcophilie et alors comment te définis-tu toi?
Parce que dans la turcophilie, il y a une espèce de vision un peu béate, ce que j'appelle la turcophilie béate, de la Turquie. Il y aurait une Turquie des bisounours où tout est beau, tout est gentil. Et c'est pas vraiment comme ça que je vois la Turquie. Je vois pas mon pays comme le plus beau des pays ou le plus parfait. Je ne vois pas la Turquie non plus comme le plus parfait des pays, simplement.
Mais tu es quand même proche de ce pays. Tu peux nous raconter ta rencontre avec... avec ce pays, comment ça s'est fait et puis pourquoi tu t'es intéressé particulièrement à la Turquie?
Oula, alors là, il y a à dire. Pour remonter à l'origine, j'ai été dans les milieux hospitaliers depuis que je suis tout gamin, c'est-à-dire j'ai eu des opérations du cœur, on peut le dire franchement. Et suite à ça, donc j'ai rencontré, je devais avoir 17-19 ans, un Turc dans un hôpital. Je savais pas qu'il était Turc, il parlait juste pas français et il restait tout seul dans son coin. Alors je suis allé le voir et j'ai essayé de parler. Il m'a dit bonjour, puis il est pas allé plus loin. Et puis j'ai essayé de savoir pourquoi il parlait pas français. Donc on a commencé à dessiner des mots et etc etc, essayer de communiquer comme on pouvait. Et ma turcopathie est partie de là, on va dire.
Turcopathie, tu dis pourquoi turcopathie?
Parce que ça me plaît plus et je pense que c'est plus dans mon caractère, on va dire. C'est une espèce de relation sucrée-salée, on va dire. Un peu pimentée, un peu passionnée. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà.
Mais quand on dit turcopathie, ça implique un peu l'aspect maladif, l'aspect on peut s'en soigner. Tu crois que tu peux te soigner de ça maintenant?
Je pourrais, mais est-ce que j'en ai envie? Pas vraiment, tout simplement. Non, j'aime bien les états de fièvre. Je suis quelqu'un de très passionné. Et donc voilà. C'est.
Est-ce que tu peux nous expliquer, donc depuis cette rencontre avec, avec ce jeune homme, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé un peu plus en détail après à la Turquie? En fait, tu nous as raconté ta rencontre, mais à partir de cette communication avec les dessins, etc., comment t'as su qu'il était turc et comment vous en êtes arrivé, enfin comment t'en es arrivé à t'intéresser à la Turquie?
Bah, il passait Ibo toute la journée déjà. Donc j'ai commencé à faire lui demander qu'est-ce que c'est comme musique, c'est un peu lancinant, c'est un peu triste, excuse-moi. Et puis voilà, donc c'était Ibrahim Tatlises, il y avait de Haku Bulut aussi, il y avait des très jolies chansons par ailleurs dans les paroles. Ce que j'aime assez comprendre généralement quand j'écoute une chanson. Je suis assez mélomane, le sens des paroles, donc il me traduisait Benim Kumralum, etc. Et je trouvais que c'était très passionné, très sanguin. Il y a quelque chose là-dedans que j'aimais bien. Et par la suite, si vous voulez, bon, je l'ai perdu de vue malheureusement, mais par la suite, ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, j'ai fréquenté des Turcs, des Kurdes, sans savoir, bon, ils étaient Kurdes, j'en avais rien à faire. Et puis bon, au bout d'un moment, j'ai commencé à grandir un peu aussi et à m'apercevoir que eux faisaient la différence, si je la faisais pas, parfois, hein, pas toujours, évidemment. Et puis à partir de là, j'ai trouvé qu'il y avait des intérêts communs et même contrairement à ce qu'on pourrait essayer de nous faire croire, on va dire dans les médias. Hein, pour. Alors donc lui, Niazi, enfin c'était son nom, prénom, je l'ai perdu malheureusement assez tôt. Enfin, on s'est perdu de vue, hein, il n'est pas mort.
Hein. Tant mieux.
Ouais, si tu m'écoutes, Niazi, il va vouloir me tuer, un de plus. Non, ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, si vous voulez, on s'intéresse. Évidemment, la langue est magnifique, la langue turque, c'est une véritable passion. Le pays est magnifique, évidemment, il y a toutes ces cartes postales, comme on dit, hein, qu'on vous présente. Quand vous parlez à un Turc, vous avez l'impression d'avoir l'office du tourisme en face de vous. Mais au bout d'un moment, je veux dire, ça suffit pas. Et vous avez envie d'aller plus loin, et vous avez envie de... Et puis même quand vous créez des liens, vous apercevez parfois qu'il y a des distances qui se font à partir d'un moment. Alors pourquoi? Parce que vous êtes de religions différentes, ou comme moi j'en ai pas du tout, c'est-à-dire que je suis athée. Et là je commençais à voir qu'il y avait ça passait pas toujours, quoi.
Et c'est là que tu as commencé à creuser un petit peu plus au-delà de la langue, au-delà de la culture et du simple aspect en fait de touriste. Tu es vraiment allé plus au fond des choses.
Bah, c'est-à-dire, oui, à un moment, c'est pas qu'on est déçu, mais c'est qu'on a envie de s'affirmer. Ou alors on devient, comme je le disais tout à l'heure, un turcophile béat, c'est-à-dire la personne qui va dire amen à tout, et puis qui incolore, inodore, et puis qui va prendre les couleurs de l'autre. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'aime la France, c'est mon pays, j'y suis né, c'est ma culture. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Je lui dois la vie, je lui dois tout, donc mon éducation, etc. Si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce au système social en France. Donc je vais certainement pas abandonner ma culture parce que l'autre me fait plaisir. Et fallait pour moi que les Turcs comprennent ça. Donc j'ai voulu essayer de voir plus loin, et ben j'ai découvert que finalement on était pas si différent, et voire même très proche. C'est-à-dire que il y a une culture de la laïcité, hein, bien qu'on quoi qu'on en dise, qui est très très très forte chez certains, moins chez d'autres. Hein, c'est comme en France, les villiéristes, je pense pas que la laïcité ça soit quelque chose qu'ils aient au fond du cœur, on va dire. Voilà, et on découvre la littérature que j'aime en France, par exemple les Apollinaire, les Rimbaud. C'est une littérature assez colorée, assez sensible, et c'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez Tevfik Fikret, chez Orhan Veli, chez Attila İlhan. Toutes ces valeurs-là qui sont finalement en nous, et ben, elles sont chez l'autre, dont on nous dit qu'il est différent parce qu'il n'a pas la même religion, parce que ceci, parce que cela. Et on découvre que chez les Turcs, bah, y a une plus grande diversité qu'on veut bien le croire. Alors évidemment, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 99% de musulmans chez les Turcs, il y a, on ne sait pas, on va dire 60-70, il y a des Alévis, il y a des Juifs, il y a des chrétiens, enfin il y a un peu de tout. Il y a aussi une culture athée, il y a aussi... par rapport à laquelle je peux me sentir plus proche, il y a une culture laïque où je me sens encore plus proche, parce qu'on peut être musulman et laïque, on peut être chrétien et pas laïque, les villiéristes. Voilà, j'aime bien lui remettre un petit peu dans la tête. Alors, voilà, et on découvre donc dans cette culture turque aussi une diversité... qu'on rencontre ici en France. Bon, je vais dire un lieu commun, mais on dit souvent que la Turquie est un carrefour des civilisations. La France, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que en France, il y a beaucoup plus de diversité. Je parle de diversité régionale. Je vous parle pas des Africains ou des Arabes, des Turcs, etc., qui sont venus bien par la suite. Mais il y a une diversité régionale qui est très, très... nombreuses, avec des langues, on dit souvent les langues, les basques, les bretons, etc., mais il y en a en fait je crois plus d'une trentaine ou plus d'une quarantaine, les alsaciens, etc., et de langues régionales aussi. Et cette diversité là on la rencontre aussi en Turquie, donc on a plusieurs j'aime pas le mot ethnie parce qu'il fait appel à un concept complètement malade aujourd'hui, qui est celui de la race. La race n'existe pas, il n'y a qu'une espèce humaine une et indivisible. Mais voilà, il y a plusieurs cultures en Turquie, tout à fait, merci de me sauver la mise. Il y a plusieurs cultures et plusieurs langues régionales, pour laquelle nous avons mis du nationalisme pour essayer de rassembler tout ça. Et les Turcs ont fait à peu près la même chose. D'ailleurs, ils l'ont pris... Atatürk a pris le nationalisme de la France, hein, évidemment, ça, tout le monde sait ça. Enfin, les Français ont... Les Français pointent souvent du tout à la Turquie pour les droits des ethnies, mais on est le seul pays en France, le seul pays d'Europe, pardon, qui ne reconnaît pas le protocole européen des langues régionales, je crois que ça s'appelle. à dire qu'il ne reconnaît pas les langues régionales, le breton, etc. Alors que les autres pays d'Europe l'ont signé. C'est le seul pays avec la Turquie, en fait c'est les deux seuls qui ont adopté la même politique nationaliste. Et ça, ça aussi c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi de voir qu'en Turquie, par exemple, vous avez des anarchistes. Alors ça, on a du mal à imaginer, évidemment, dans un pays musulman, des anarchistes défilant dans la rue. Évidemment, même s'ils se prennent des coups dans la tête, ils se prennent aussi des coups dans la tête ici. Donc il n'y a pas de différence. Il y a aussi en Turquie des bars gays. Il y a aussi en Turquie des transsexuels, il y a aussi plein de choses. Et cette diversité qui fait que je retrouve ici et que je retrouve là-bas et qui fait que j'aime ce pays ici et que j'aime ce pays là-bas. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que aimer la Turquie, c'est être turcophile ou est-ce que c'est pas quelque part se voir un peu dans le miroir et une espèce de narcissisme là-dedans, j'en sais rien en fait.
Dernière question Aurélien, est-ce que qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ta turcopathie?
Voilà, ma turcopathie. Quasiment rien. J'ai juste changé ma porte. La porte de la maison est une porte blindée qui vient d'Istanbul. Les fenêtres viennent d'Istanbul. On a un gros Nazar Boncuk qui est au-dessus de l'entrée de la porte que j'ai imposé à ma mère qui vient d'Istanbul.
Alors, elle en a dit quoi ta mère?
Bah, ma mère, elle s'habitue. Mon petit frère a le drapeau turc dans sa chambre, et à côté du drapeau européen d'ailleurs, et parce que ça est indissociable. Et d'ailleurs, mon petit frère est un fan de Baloch Akarsu, qui est malheureusement décédé cet été, et d'autres comme Tarkan, enfin tous les modernes.
T'as transmis ta maladie à ta famille alors?
Voilà, c'est transmissible. Il a des accès de grosse fièvre aussi comme moi, il a 17 ans et il est terrible là-dessus. Et puis bon, à part ça, oui, j'ai créé mon association, c'est-à-dire pour dire que bah on pouvait garder son identité donc avec mon ami Nobel. Pardon, il va me tuer.
Non, on l'avait déjà reçu, donc il t'en voudra pas.
Voilà, et je t'embrasse, hein, Nobel. Et pour dire que bah voilà, on pouvait être comme on est et s'aimer quand même, tout simplement. Et puis par ailleurs, bah j'ai pris je faisais rien d'ailleurs, c'est vrai que la Turquie a changé ma vie. Je faisais rien, j'étais une loque et maintenant je fais des études, alors je n'avais pas le bac. Donc là je suis au Langso et je fais une première licence de turc. Voilà.
Bah, très bien, on espère que ça mènera tout le monde vers un avenir comme le tien.
Bah merci beaucoup.
Si on arrive à la fin de notre reportage, tu voudrais conclure comment? Quels seraient tes derniers mots?
Alors je voulais dire que je voulais m'adresser aux Turcs, on va dire à ceux qui m'écoutent, et leur dire que bah oui, on peut vous aimer peut-être pas comme vous le voulez, mais en tout cas on peut vous aimer passionnément, de façon sanguine même. Et surtout, on n'est pas obligé d'aimer, comme moi j'aime, je n'aime pas tout le monde ici, on n'est pas obligé de tous vous aimer. Je n'aime pas ici le FN, je n'aimerais pas le MEP, je n'aime pas ici les gens qui posent des bombes, je n'aimerais pas le PKK. Mais à part ça, j'aime, je pense, une majorité de gens qui, comme ici, sont pris en otage, on va dire, par les gouvernements.
Conclure. Très bien, merci Aurélien. On va passer à la suite.
On vient donc d'écouter Aurélien qui nous a parlé de sa turcopathie, comme il dit. Nous allons continuer notre discussion sur la turcophilie avec nos invités en plateau juste après une petite pause musicale. Hemen şimdi devam edeceğiz. Bugünkü konuşmamıza ama devam etmeden önce bir müzikle bir ara verelim. Hemen Yıldız Tilbe'yi dinleyeceğiz Ay Işığında ve bu iki istek alan bir parça.
Evet, birinci Özdemir Seyit bu parçayı 95'te cezaevinde yatan kuzenine Özdemir Deniz'e armağan ediyor.
Ayrıca da Erkan'dan Turan'a geliyormuş bu parça. Yıldız Tilbe Ay Işığında dinliyoruz hemen. Thank you.
köyümü verdim, aşık oldum. Ben seni gördüm, aşık oldum. Köyümü verdim, aşık oldum. Tez geldi Ciran, ayrıldı Kemal. Ay ışığında, ay ışığında. Tez geldi Ciran, ayrıldı Kemal. Ay ışığında, ay ışığında.
Des jeunes originaires de Turquie et Arc-en-Ciel sur 106.3, fréquence Paris Pluriel. Donc nous sommes ensemble encore jusqu'à 16h et nous allons continuer notre sujet du jour, donc la turcophilie. Nous avons écouté Aurélien qui nous a parlé, lui, de sa turcopathie puisqu'il ne se voit pas comme un turcophile. Je vais d'abord présenter peut-être, enfin dire bonjour à nos invités qui sont sur le plateau. Bonjour Marie Antide.
Bonjour.
Bonjour François.
Bonjour.
Et bonjour Valérie.
Bonjour.
Je vais vous demander d'abord rapidement chacun comment vous avez rencontré la Turquie, comment vous êtes arrivé à vous intéresser à ce pays. On commence par François peut-être.
Oui, pourquoi pas. J'aurais préféré qu'on laisse parler les dames en tout premier lieu. Mais bon, c'est un peu...
Sur Arc-en-Ciel, on laisse la place aux minorités aujourd'hui.
D'accord. Donc c'est moi la minorité active et je commence immédiatement. Je dirais que ça va être difficile d'intervenir après la longue intervention d'Aurélien, dans la mesure où il a bien résumé un peu ce que nous on ressent en tant que turcophiles et peut-être aussi en tant que turcopathe, parce que ce sont les deux faces d'une seule et même pièce. En ce qui me concerne, la turcophilie, je suis tombé dedans complètement par hasard, pas quand j'étais tout petit, mais quand j'étais un tout petit peu plus grand, à la suite d'un cursus que je voulais compléter par l'apprentissage d'une langue rare, et J'hésitais entre le russe et le turc pour des langues et des civilisations qui étaient plutôt proches de l'Union européenne. Il y avait déjà cette problématique-là. Mais puis, à plouf plouf, j'ai choisi la Turquie. Et puis voilà, ça a changé ma vie. Ça fait plus de 10 ans, 10 ou 11 ans maintenant que je m'intéresse à la Turquie, que j'ai appris la langue et que je connais le pays pour y avoir vécu aussi 2-3 ans. Et je dirais comme Aurélien que si j'aime la Turquie, je ne suis pas non plus d'une turcophilie complètement béate. Voilà, je pense que j'ai laissé la parole.
On reviendra sur cette béatitude.
Voilà, sur les degrés de la turcophilie, voilà, sur les degrés de la béatitude.
Très bien, on continue avec Marie-Antide.
Moi, ça a été une visite à Istanbul. Enfin, en fait, je suis vraiment tombée amoureuse du Bosphore. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, j'ai beaucoup, beaucoup aimé tout simplement des discussions de marchands de tapis, c'est le cas de le dire, au Grand Bazar, et la façon dont les vendeurs avaient l'art de lier le lien avec le client et donc en tant que personne avant de faire leur affaire. Et je me souviens très bien quand je suis repartie dans l'avion, je me suis dit un jour, je ferai du business avec ce pays. Et donc, j'étais en école de commerce à l'époque, et la troisième année, on devait faire un mémoire de fin d'études. Et j'ai décidé de le faire sur les entreprises françaises qui s'implantaient en Turquie. Donc à l'époque, c'était en 93, la France était le premier investisseur en Turquie, donc c'était un pays qui était assez à la mode. Et comme par contre, il n'y avait pas beaucoup de documents, donc j'ai fait des interviews pour documenter tout simplement mon mémoire. Je les ai fait sur Paris, sur Istanbul et sur Ankara. Et j'ai rencontré 2-3 personnes qui m'ont dit, écoutez, si vous aimez l'aventure, si vous aimez, si vous aimez l'imprévu, et puis c'est un pays plein d'avenir, donc venez ici et puis vous vous amuserez. Parce que c'est vraiment le Far West. Bon, il n'y a pas de colt, hein, mais c'est comme les tasses de thé, c'est pareil. Tout est permis et c'est l'aventure à chaque coin de rue.
Au niveau du libéralisme économique ou...
Au niveau de la pratique des affaires, des relations entre les gens. Enfin, vous savez, en Turquie, quand on se lève le matin, les gens ont l'habitude de vous dire on ne sait jamais ce qui va se passer dans la journée. Bon, ben, c'est exactement ce qui était dit. Et j'avais aussi remarqué lors de mes entretiens, que, notamment avec des directeurs de filiales françaises là-bas, qu'en fait, ils avaient une réelle distance avec leur personnel turc. Et ce, souvent pour des questions tout simplement culturelles ou linguistiques, parce qu'ils ne parlant pas le turc, ils n'arrivaient pas à communiquer. Donc, je me suis dit, tiens, c'est amusant si j'apprends le turc, peut-être que j'arriverai à me glisser entre eux et puis à faire un peu l'interface entre les deux. Et en fait, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à chercher du travail en France et ça commençait à patiner parce que la crise commençait à poindre. Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques avec tout simplement une adresse d'hôtel, une inscription chez Temer, donc pour apprendre la langue. Et j'ai débarqué là-bas un peu en me disant, bon, on va voir ce qui se passe. Et en fait, ce qui a fait que je suis restée là-bas, parce qu'in fine, en tout et pour tout, j'y ai vécu pratiquement 10 ans, c'est que j'ai rencontré très très vite une famille turque pour m'héberger, donc une mère et sa fille. Et au début, je suis restée avec elle 3 mois, pour apprendre un peu avec elle et me poser à Istanbul. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je suis restée 6 mois et puis après 2 ans. Et c'est vraiment devenu mon accroche et ma pierre angulaire. Et à partir de ça, tout s'est construit.
On va continuer un petit peu après pour la suite de ces aventures turcophiles. Mais on continue avec Valérie sur la rencontre avec la Turquie. Comment elle s'est faite pour toi?
Alors moi, c'était en 99. J'avais fait un séjour linguistique en Angleterre, donc dans une école internationale où il y avait pas mal d'étudiants d'un peu partout. Et j'avais sympathisé avec deux jeunes filles turques, dont une d'Istanbul. Et évidemment, quand le séjour s'est terminé, on a promis de se revoir, etc. Elle m'avait invité donc à Istanbul en vacances, ce que j'ai fait quelques mois après. Et là, j'ai été accueillie dans sa famille comme si vraiment j'étais une cousine, quoi. Et l'accueil a été formidable. Et elle m'a présenté ses amis, m'a fait visiter la ville. Et effectivement, sous cet angle-là, on ne peut que tomber amoureux de la ville. Et des gens, et donc toutes les discussions et les amitiés qui se sont nouées à partir de là ont fait que mon premier contact avec Istanbul, enfin avec la Turquie et surtout Istanbul, puisque moi je connais pas trop la Turquie, mais j'ai fait plusieurs séjours à Istanbul, ne serait-ce que pour décompresser de la vie parisienne.
Et parce que je trouve que c'est moins stressant que la vie.
Quand on n'y vit pas, je pense que oui. Quand on y est en vacances, oui, effectivement. On peut se poser sur le Bosphore aussi longtemps qu'on veut, on n'a pas de contraintes de temps ou de rendez-vous d'affaires, de choses comme ça. Donc effectivement, on peut arriver à prendre la vie de façon assez tranquille et à profiter du kiff.
Le concept du kiff, effectivement, c'est quelque chose de très ancré chez les Turcs. J'aimerais continuer avec En fait, les différentes approches que vous avez pu avoir de ce pays, vous n'en êtes pas resté à l'approche touristique, puisque chacun, vous avez une activité aujourd'hui qui est assez proche de ce pays. Vous êtes soit militant, soit bénévole dans des associations dont vous pouvez nous parler maintenant. Et quelles sont vos activités en fait en lien avec la Turquie aujourd'hui ? Enfin, comment c'est arrivé jusque-là ? Qui veut commencer ?
Moi, depuis que je suis rentrée en France, en fait, donc j'ai séparé la Turquie un peu de ma sphère professionnelle parce que j'arrivais pas à faire les deux à la fois. Donc, j'ai mis la Turquie dans ma sphère associative et donc je suis membre de Turquie européenne. Et j'ai aussi créé un blog où je raconte voilà tout ce qui est un peu l'actualité, un peu la culture, un peu des impressions. Et c'est comme ça que je garde le lien avec la Turquie. Bon, évidemment, hors toutes les visites que je peux faire là-bas. Et l'envie toujours de pratiquer la langue, parce que ça, c'est quand même la clé de beaucoup de choses.
Alors, vous parlez tous le turc ou débutez ?
Çokas.
Non, il y en a konuşuyorum.
Et toi, François, comment est-ce que ça a des répercussions sur ta vie ?
Oh, ben, les répercussions sur ma vie, elles sont nombreuses, je ne les mesure pas encore toutes.
Au niveau des activités,
effectivement, moi j'ai travaillé en Turquie pendant trois ans durant lesquels j'ai essayé de faire de la correspondance de presse sur place. Et puis quand je suis revenu en ayant abandonné ce projet-là, je me suis dit qu'il est trop tard maintenant pour lâcher la Turquie. Donc pour conserver le contact avec la langue, j'essaye de rester en contact avec la presse, faire de la traduction, de faire de la lecture de textes turcs. Et puis, de fil en aiguille, effectivement, j'avais monté un blog, parce que je suis revenu au moment où, justement, on discutait beaucoup dans la presse et dans les médias français de la perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, et notamment le début des négociations d'adhésion. Et donc, il y avait des débats très, très passionnés et tout à fait horripilants pour nous autres qui connaissons un tout petit peu la Turquie. Qui se livrait dans les médias. Donc, je ressentais le besoin de d'éclaircir, de dire ce que je pensais. Et puis, ensuite, j'en suis venu, puisque je suis aussi membre de Turquie européenne, j'en suis venu à découvrir cette association-là, à laquelle j'ai adhéré, je me suis lié, et à laquelle je consacre aujourd'hui beaucoup de temps, pour notamment la mise en ligne du site, le traitement d'informations, les traductions de la presse turque vers la presse française. Et donc ça effectivement j'ai séparé la Turquie de ma sphère professionnelle et toute ma vie privée, enfin une grande partie de ma vie privée est absorbée par la Turquie et puis par ce militantisme européen en faveur de la Turquie, voilà.
Et toi Valérie, quelle répercussion au niveau de tes activités de la Turquie ?
Au niveau de mes activités, en fait, à mes retours d'Istanbul, j'ai rencontré en France une chanteuse qui s'appelle Gülseren, que vous connaissez certainement,
bien,
et qui est venue également ici à la radio. Donc par sa rencontre, je suis restée en contact, on va dire, musicalement, entre guillemets, avec la Turquie, donc avec son activité à elle. J'ai fait son site et photographe sur ses tournées. Et donc pour faire sa promotion aussi, je suis allée pas mal sur Internet et c'est là que je suis arrivée sur différents sites et forums franco-turcs et j'ai noué aussi d'autres amitiés via ces forums qui font que, fur et à mesure, je suis restée en contact avec le milieu turcophile, on va dire. Et puis en parallèle, dans mes différents séjours à Istanbul, j'ai aussi fait pas mal de photos et monté une exposition de photos en noir et blanc sur Istanbul qui tourne un petit peu depuis 2-3 ans maintenant.
Très bien, on va faire une toute petite pause musicale avant de continuer. En fait, donc là on a vu vos intérêts plutôt humains ou culturels ou politiques. On va un petit peu approfondir ce point-là juste après la prochaine chanson. Donc on va écouter Malte qui va nous chanter Deprem. Hemen şimdi dinliyoruz Malte Deprem ve sonra tekrar birlikteyiz.
Sallandık diyorum, merkezini bilmiyorum, sokağı fırlıyorum. açıklama gelmeden ben bu evi terk etmiyorum. Tehlikeleri düşündüm önceden ama bölge sakattı zaten. Senden bir açıklama gelmeden çaresizim biliyorum. Hayatıma asma bir kat yaptım. Yeni bir aşk bir de çekyat kattım. Tam mutlu olurum burada derken üç nokta bile bile dayanamadım. Tepeme yıkıldım. Ha! Çatlak olabilirim belki hafiften. Sallanıyorsam işte bu yüzden. Senden bir açıklama gelmeden kırılmam biliyorum. Herkes panik oldu, kimisi korktu, kimisi yaşamıştı biliyordum. Ama hepsi hep bir ağızdan sakin ol diyordu. Hayatıma asma bir kat yaptım. Yeni bir aşk bir de çekyat kattım. Tam mutlu olurum burada derken üç nokta bile bile dayanamadı. Tepeme yıkıldı. Hayatıma asma bir kat yaptım. Yeni bir aşk bir de çekyat kattım. Tam mutlu olurum burada derken üç nokta bile bile dayanamadı. Tepeme yıkıldı. Tepeme yıkıldı. Masasında içerken, Richter'den konuşurken, aşk biter, yenisi gelir eskisinden beter. Hayatıma asma bir kat yaptım, yeni bir aşk bir de çekyat kattım. Tam mutlu olurum burada derken, üç nokta bile bile dayanamadı, tepeme yıkıldı. Hayatıma asma bir kat yaptım. Yeni bir aşk bir de çekyat kattım. Tam mutlu olurum burada derken üç nokta bile bile dayanamadı. Tepeme yıkıldı.
Toujours à l'écoute de l'émission Arc-en-Ciel, la voix des jeunes originaires de Turquie sur 106.3 FM, fréquence Paris pluriel. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Nous avons donc aujourd'hui notre discussion sur la turcophilie. Et je crois que nous avons un auditeur en ligne. Ah non, pas encore. Il a appelé tout à l'heure, il voulait participer. Donc s'il veut, nous pouvons donc l'accueillir. Il nous appelle au 01 40 05 06 10. On va continuer, donc on était resté sur le point en fait par rapport à ce que vous venez de raconter. Donc vous avez chacun eu des. Ah, on a notre auditeur en ligne, on va le prendre tout de suite, comme ça, ça sera fait. Allô ? Allô, bonjour ? Allô, allô, allô ?
Allô ?
Oui, bonjour. Pourrais-tu baisser juste le son de la radio, parce que ça va
oui.
faire un écho sinon ?
Oui, oui, je. Oui ? Allô ?
Oui, donc qui avons-nous à l'antenne ?
C'est Mavic Elébec, du Mavic forum Elébec. Des Petits Loukoum.
Très bien, Mavic Elébec. Comment vas-tu ?
Ça va bien, ça va bien.
Peux-tu nous raconter un petit peu ta rencontre avec la Turquie ?
Ben, ça a commencé il y a à peu près un an, je pense. Je cherchais des informations sur un personnage qu'on connaît très bien, Atatürk. Et bon,
pourquoi tu cherchais des informations sur lui ?
Bah, ça m'était passé comme ça par la tête, parce que parfois en cours je rêvasse et donc j'ai l'air pensé à ce personnage là mais c'est aussi parce que j'avais retrouvé un vieux billet de 5 livres turcs où il y avait justement le portrait d'Atatürk. Alors je voulais en savoir un peu plus.
Tu l'avais trouvé où, ce bonhomme?
Et bon, je suis tombé sur Wikipédia, tout ça. Et ensuite, je me suis intéressé à la langue turque et je me suis dit, j'aimerais bien trouver un forum où les Français et les Turcs ils peuvent se rencontrer. Bon, bah comme je cherche assez vite sur Google, je suis tombé vite fait sur les petits Loukou, mais c'est comme ça que je me suis inscrit et que j'ai commencé de plus en plus à augmenter ma turcophilie.
Je comprends ta curiosité par rapport à Atatürk, par rapport à ce que tu avais, mais comment est-ce que, enfin, pourquoi maintenant tu te déclares turcophile?
Bah, disons que c'est toujours un pays qui m'a intéressé, parce que quand on était petit en classe, on nous disait, on nous apprenait tout le temps les frontières de l'Europe, tout ça. Et moi, déjà très petit, je me disais, mais c'est pas possible, ce pays-là, il est pas en Asie, parce que récemment j'ai vu qu'il y avait j'avais découvert une carte où on voyait que finalement si on retirait l'eau de la Méditerranée et l'eau de la mer Noire, on voyait que tout se collait. Et en fin de compte, j'ai eu un déclic. Au bout d'un moment, je me suis dit, en fin de compte, la Terre n'est qu'un seul et même pays. Donc c'est pour ça aussi que, bon, je ne vois pas pourquoi... Je considère plus la Turquie comme européenne qu'asiatique. À ce prix-là, on pourrait dire que la Turquie est un pays bicéphale, tout comme la Russie.
Justement, on allait débattre ici de... En fait, donc nos invités sur le plateau nous ont... parler de leur convergence vers ce pays. Donc certains ont eu plutôt un intérêt humain, artistique, culturel, d'autres plus un intérêt politique. Toi, donc, ça a commencé plus avec cet intérêt politique?
Oui, c'est vrai. Ça a commencé plus avec cet intérêt politique. Et aussi, bah, c'était au niveau de la langue, parce que j'aime beaucoup les langues. J'en parle 4 ou 5 en comptant le français. Je parle anglais, allemand, italien, espéranto, comme beaucoup peuvent le savoir, je pense. Et il y a aussi récemment, je m'étais un petit peu mis à l'islandais, mais après j'ai décroché un peu et j'ai voulu un peu tâter le turc, quoi. Et le turc, je trouve que franchement, c'est très joli comme langue. Parfois même, je dis que c'est un petit peu plus joli que l'italien, parce que avec l'harmonie vocalique, tout ça, ça fait chanter, je trouve. Et puis... Oui, je sais pas, c'est une langue qui m'a donné envie de l'apprendre. Bon, je suis encore que débutant, j'espère qu'un jour je pourrai au moins l'apprendre plus approfondément en fac, quoi, parce que tout seul c'est un peu plus compliqué. J'ai appris l'espéranto de manière autodidacte, c'est-à-dire par moi-même, mais le turc, bon, c'est un petit peu plus corsé, on va dire.
Bon, bah,
sans
on va
pour autant que ce soit difficile.
On va te souhaiter bon courage. Alors, merci beaucoup de nous avoir appelés pour nous donner ton expérience, et puis continue de nous écouter. Hein.
Bah, merci, à vous aussi.
Merci. On va continuer sur ce point-là de vos intérêts, donc que ce soit plus culturel ou artistique ou politique. Est-ce que finalement vous avez pris la Turquie sur tous ces volets? Et vous acceptez, enfin, comment vous la voyez sur les différents volets? Est-ce que vous avez une opinion sur aussi bien le plan, bah, là on a parlé de la langue, mais le plan humain, le plan artistique, le plan politique, ou est-ce qu'il y a certains volets qui vous intéressent plus que d'autres? Qui veut parler en premier? Allez, hop.
Moi, je me lance. Je dirais qu'effectivement, il y a toujours des volets qui nous intéressent plus que d'autres, et il y a des biais et des portes d'entrée par lesquelles on rentre en contact avec soit un pays, soit une langue ou une culture. Moi, ça a commencé, effectivement, si je reviens à mon expérience personnelle, ça a commencé par par toute une problématique qui était politique, qui était plutôt liée à l'Union européenne, avec la proximité de la Turquie avec l'Union européenne. Alors que à cette époque-là, je connaissais absolument rien de la Turquie, si ce n'est quelques banalités sur Atatürk. Mais je dirais qu'avec le temps aidant, et puis l'intérêt se développant et la culture la connaissance du pays se développant, on en vient à aborder d'autres centres d'intérêt. Et donc, si je suis parti des problématiques politiques, s'il y a un intérêt politique, on ne peut pas en rester là, parce que derrière tout cela, il y a un pays, il y a des gens, il y a une culture, il y a une langue, comme disait votre invité. Votre correspondant, il y a deux minutes, il y a une langue qui est magnifique et qui est touchante. Et quand on la, qui est peut-être aussi chantante, peut-être même plus chantante ou plus plastique que l'italien encore. Et quand on commence à la maîtriser, à rentrer dedans et puis à pouvoir en lire, en apprécier la poésie, je pense que l'intérêt va bien au-delà de tout ce qui peut être problématique politique. Donc, des fois, ça nous aide aussi à relativiser, parce que si on s'en limitait qu'à la politique, il y aurait des moments où on vivrait au bord de la dépression. Donc il faut mieux se rattacher à ce qui fait vraiment la beauté du pays, donc sa langue, ses gens, sa culture, toute sa culture plurielle, et puis sa géographie aussi, le pays en lui-même, on s'en lasse pas.
Tu dis sa culture au pluriel, donc à partir de quand t'as été conscient de cette pluralité en Turquie ?
Assez vite en fait, parce que dès que je m'y suis rendu, moi j'ai commencé à m'y rendre pendant les vacances pour pouvoir améliorer la pratique du turc, enfin la pratique, les quelques connaissances de turc que j'avais acquises pendant l'année à l'université, et puis je me rendais, en fait je travaillais pendant l'été dans les clubs autour de Bodrum et d'Antalya, et donc j'étais vraiment avec le peuple. Donc j'avais à côté de moi, j'avais des Turcs, j'avais des Kurdes, j'avais des Azas, j'avais des Azeris, donc j'étais vraiment immédiatement plongé dans le melting pot à l'anatolienne. Et puis, ma turcophilie n'exclut pas non plus ma kurdophilie, l'intérêt que je porte aux Kurdes, l'intérêt que je porte à d'autres cultures, ou comme on dit, infra-identité aujourd'hui en Turquie. Bon, la Turquie, c'est tout ça. Et être turc et l'identité turque, c'est ce qui c'est un peu le kaléidoscope de toutes ces identités anatoliennes. C'est tout ce qu'on retrouve dans la littérature d'Ayashar Kemal. On retrouve toutes ces strates, toutes ces histoires qui sont mêlées et qui donnent la Turquie d'aujourd'hui et la Turquie et celle qui sera la Turquie de demain. Enfin, c'est l'espoir qu'on a. Quoi.
Quel est l'espoir des deux autres invités aujourd'hui ? Valérie, elle est partie dans ses rêves de Turquie et d'Istanbul.
Oui, ça fait longtemps que je ne suis pas allée, effectivement, ça trotte encore dans la tête. Tu parlais de quoi ? D'espoir ?
D'espoir, mais par rapport aux différents volets de vos intérêts, est-ce que vous êtes intéressée forcément aussi bien à la culture, à l'artistique, à la littérature que à la politique
Moi, je dirais que presque la politique est venue en dernier quelque part, puisque moi mon intérêt d'abord il était humain par rapport aux gens que j'avais rencontrés, artistique ensuite et donc culturel par extension, gastronomique aussi, faut pas l'oublier, et donc politique par la suite, parce que les rencontres font qu'on a des discussions avec les gens, qu'on apprend des choses, qu'on lit aussi de son côté, et on confronte les idées, etc. Et les rencontres aussi font que je suis tombée sur des gens qui font partie de Turquie européenne, dont je fais également partie. J'ai l'impression que c'est un noyau comme ça qui prend...
Non, en fait, c'est un grand réseau.
Un grand réseau,
de la turcophilie, ouais. Où tout le monde se rejoint dans toutes les
c'est
associations.
C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, effectivement, moi, je n'avais pas d'intérêt particulier pour la politique, mais c'est quand même un sujet qui nous concerne tous. Et puis, donc, vis-à-vis de...
T'as été peut-être amenée à t'y intéresser.
Voilà, exactement, amenée à m'y intéresser, à me poser des questions justement sur Turquie, oui ou non, dans l'Union européenne. Je fais partie de Turquie européenne dans l'esprit aussi de dire que la Turquie fait partie de l'Union européenne de mon point de vue. Sauf que j'y mettrais peut-être un certain nombre de bémols, mais qui tiennent aussi du fait que pour moi, l'Europe, en tout cas aujourd'hui, il y a aussi ces problèmes à régler. Mais ce dont je suis convaincue, c'est que la marche vers l'Europe pour la Turquie est quelque chose d'important. Est-ce que ça aboutira vers une adhésion pleine et entière ? Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, la marche de la Turquie vers l'Europe est, je pense, quelque chose d'important.
Marie-Antoine, toi, tu as carrément vécu presque 10 ans, donc est-ce que, enfin, forcément, tous ces aspects ont dû être liés à un moment ou à un autre, mais est-ce qu'il y en a un qui a pris le pas ?
Oui, mais pas au même moment. Moi, ça a évidemment commencé par un aspect humain, donc avec un gros, ces deux personnes, puis après les amis turcs, et ça s'est construit de fil en aiguille. La langue a joué un rôle très important, parce que la langue, c'est une langue que j'aime énormément parler, non seulement parce qu'elle est effectivement belle à l'oreille, mais c'est surtout parce qu'elle est très drôle, elle est très souple, hein, et on peut jouer avec. Et en plus, il y a beaucoup d'onomatopées. Donc, elle vit tout le temps. Elle s'adapte toujours à toutes les situations. Et je me souviens d'éclats de rire, mais justement, juste énormes, lorsqu'une amie, par exemple, m'avait dit un jour, il y a un ebukaden vodevode konushurge. Et juste en entendant ça, on avait l'impression vraiment d'entendre une femme qui parlait sans arrêt. Un autre exemple, c'est une circulation qui va très doucement, c'est toklum toklum gitmek. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas en français, malheureusement, où la langue aussi est très belle, mais d'une autre façon. Alors que le turc, pour ça, pour moi, me fascine à cause de ça. L'aspect culturel et politique, c'est venu plus tard. L'aspect politique, c'est arrivé en fait. Ça m'a intéressé, mais j'ai pas vraiment pas plus que ça, jusqu'au moment des grandes manifestations qui ont eu lieu en avril dernier. Donc là, j'étais en France, et c'est la façon dont j'ai vu comment l'information était comprise et traduite dans les journaux français que j'ai commencé sérieusement à m'y intéresser, à écrire. Donc d'où mon blog, d'où après pas mal de publications sur certains médias français. Et donc de fil en aiguille, après j'en suis venue effectivement à m'intéresser de façon un peu plus proche à la culture. Et je regrette par exemple de pas m'être intéressée davantage à toute la poésie turque, qui est là aussi énorme. Et j'ai eu un vrai déclic quand j'ai vu le film sur Nazım Hikmet, Mavi Gözlü Bir Dev, où je me suis rendu compte qu'en fait, bon, là, sa poésie était peut-être difficile d'accès pour quelqu'un qui n'est pas turc, parce que évidemment, il y a 2-3 sens derrière les mots, mais quand même, avec un bon niveau, on peut quand même lire et comprendre ce qui est dit. Donc, ça donne autant de perspectives et de travail à faire, d'abord à mon propre niveau pour connaître et assimiler et puis et découvrir, et puis ensuite pour le diffuser au niveau français, quoi, tout simplement.
Très bien. Avec ce que vous me dites là, j'ai la béatitude d'Aurélien là qui me revient à l'esprit par rapport à sa turco, non turcophilie mais turcopathie. Finalement, vous avez l'impression de saisir vraiment la réalité de la Turquie et pas de vous contenter de certains points, on va dire plus joyeux.
C'est difficile parce que c'est un pays qui est très très complexe, et je pense que si on veut saisir l'ensemble de la Turquie, d'abord un Turc lui-même ne saisit pas l'ensemble de la Turquie. Je veux dire, la Turquie est quand même un pays la société turque est quand même une société un peu de caste, et chacun vit dans son monde. Donc c'est déjà, quand on est un Turc d'Istanbul, on connaît assez mal la réalité à 3000 km de là. Alors pour un étranger, c'est amplifié évidemment. Non, je pense que quand on est étranger et qu'on a justement cette accroche, ce virus avec la Turquie, alors pour reprendre un peu le mot d'Aurélien de télépathie, parce qu'il y a un peu de ça effectivement, il faut tout simplement accepter d'apprendre tout le temps, et jamais se dire voilà, la Turquie je la connais et puis c'est bon, quoi. C'est pas vrai. C'est vraiment un voyage qui dure un an, enfin qui dure une vie à mon avis, parce que c'est d'une richesse incroyable.
Parce que je pense que
Excuse-moi, j'ai encore un truc. Et ça, nous, en tant que Français, ça nous remet toujours en cause. On a l'habitude parce qu'on a, on est le pays des droits de l'homme, on est le pays de ci, de ça. On a toujours l'habitude de penser quelque part qu'on connaît une certaine vérité. En Turquie, il y a autre chose qui quelque part nous force à nous poser des questions. Et ça, c'est un chemin aussi qui est très riche.
Sur la France également.
Sur la France ou sur ce qu'on a reçu, sur ce qu'on nous a dit.
Très bien. Tu voulais
rajouter ? Non, je voulais juste dire que, en fait, quand on commence à s'intéresser à la Turquie, on se rend compte à quel point, plus on apprend des choses, plus on se rend compte à quel point c'est compliqué.
Et plus on
se doit d'aller plus loin, parce que si on veut essayer de comprendre un minimum, il faut toujours aller plus loin, parce que la complexité, elle nous arrive au fur et à mesure qu'on apprend les choses, on voit qu'on n'a jamais fini.
Est-ce que c'est un frein, ça, à votre turcophilie ?
Non, je dirais presque que c'est un moteur, quelque part, oui. Oui, qu'il faut justement, effectivement, parce que disait Marie-Antide, on peut jamais dire qu'on connaît vraiment la Turquie. Ce serait extrêmement prétentieux que de dire qu'on la connaît.
Très bien, on arrive à la fin de notre émission. Je vais vous demander à tous un petit mot de conclusion sur ce pays et puis sur votre turcophilie. Commence par François.
Oui, alors pour conclure sur la turcophilie, je dirais que...
Sur ta turcophilie.
Sur ma turcophilie, dans la continuité de ce qui vient d'être dit, je dirais effectivement que la turcophilie, c'est pas le fait de savoir et de connaître le pays de loin de manière objective, c'est le fait d'avoir mis un pied dedans, d'avoir mis un pied dans la langue. Et puis d'être entraîné comme ça dans une sorte d'engrenage qui nous conduit à aller toujours voir un peu plus loin, mais ce serait effectivement bien prétentieux que de dire qu'on connaît la Turquie, On est toujours en découverte de, justement, la turcophilie, c'est pas non plus la représentation d'une Turquie idéale ou orientaliste. C'est, je pense qu'il faut aussi sortir de ce débat-là entre turcophilie et turcophobie et passer au-delà de la turcophilie. De toute façon, on n'est pas là non plus pour tous s'aimer les uns les autres, mais il faut qu'on apprenne aussi à pouvoir vivre ensemble, à se supporter, dans la mesure où la Turquie est de plus en plus proche de nous, de l'Europe, qu'elle se rapproche et qu'elle a des considérations et des problèmes qui sont aussi les nôtres. Je pense qu'il faut qu'on dépasse cette idée de turcophilie, parce qu'elle porte aussi l'idée de la turcophobie derrière elle. Et puis, à mon avis, elle résulte de ce 19e siècle où on voyait... où on envisageait la turcophilie à la manière de Pierre Loti, mais je pense qu'on est largement au-delà de tout ça. Il faut qu'on essaye de faire le deuil de cette turcophilie, justement, qui était trop, trop béate. Voilà.
Très bien. Un dernier mot, Marie-Antide?
Oui, mais ça va être très proche de François. Parce que turcophilie, pour moi, ça induit turcopathie, et puis c'est pas forcément des très bonnes, ni l'un ni l'autre. Non, pour moi, c'est tout simplement une aventure humaine. Une aventure humaine qui a très, très bien commencé, qui a été vraiment 10 ans de difficultés, mais aussi de très grande joie, et qui continue à irriguer et à inspirer beaucoup de choses que je fais. Donc ça, c'est à mon niveau personnel. Et puis après, au niveau de la Turquie en général, ça va, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc turcophilie, c'est un peu restructeur.
D'accord. Valérie, un dernier mot?
Difficile de parler après tous ces beaux mots. À titre personnel, j'espère juste que je vais encore... que la Turquie va encore m'apporter, mais j'en suis certaine, beaucoup de bonheur et de rencontres, de belles rencontres, comme j'en ai fait jusqu'à présent.
Oh, me dit-elle en me regardant dans les yeux. Je suis très touchée. Je vous remercie tous vraiment chaleureusement d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite également la poursuite de votre aventure humaine avec la Turquie et avec les originaires de Turquie que nous sommes, nous par exemple, à Arc-en-Ciel. Nous allons conclure l'émission aujourd'hui. On va écouter une dernière chanson avant de revenir pour vous indiquer la semaine prochaine qu'est-ce qui vous attend sur Arc-en-Ciel. Donc on écoute tout de suite Doğuş Gülüm et on va conclure l'émission juste après.